Quatrième épisode, à Londres et à Paris. Chapitre 1, le grand silence. Chapitre 1, le grand silence. Pendant 3 semaines, Thérèse alla tous les 2 jours à la poste restante sans rien trouver. La première fois, on lui demanda une preuve d'identité. Elle passa à l'employé sa carte de visite, où elle s'appelait encore Mademoiselle Thérèse Lemaire. Et puis, sur une autre exigence et fort à contre-cœur, elle produisit la lettre où l'adresse TL3333 était indiquée. Le préposé n'y jeta qu'un coup d'œil, marmotta « ni signé, ni daté. Mais enfin, ça ira comme ça. Les initiales et les chiffres sont corrects. Vous voudrez bien, madame, tenir cette lettre à notre disposition s'il survenait une réclamation quelconque. » Mais le sourire narquois, le haussement d'épaules qui, après la première quinzaine, accueillait Thérèse au guichet, lui devinrent insupportables. Elle s'adressa à elle-même 2 lettres, TL3333, qu'elle glissa dans 2 boîtes différentes de quartiers très éloignés de Holborn. Pour n'avoir pas de trop longues courses à faire, elle avait choisi une petite pension, bien inférieure à celle de Madame Stephen, dans un quartier bruyant où, tout le jour, tard dans la soirée et dès l'aube, roulaient et faisaient trembler le sol les lourds camions d'une grande brasserie voisine. Thérèse payait, comme chez Madame Stephen, 1 livre par semaine pour être moins proprement logée, beaucoup plus mal nourrie et pour endurer la proximité, à table et au parloir, de gens insuffisamment dégrossis qui, d'ailleurs, s'abstenaient envers elle de toute avance sociale. 3 semaines. Les 6 livres étaient réduites à 3, outre les 2 précieux souverains du porte-monnaie. Trop peu d'argent pour entrer en Suisse, ce qu'elle n'eût fait d'ailleurs qu'à toute extrémité. Juste assez pour vivre encore 3 ou 4 semaines. Mais Pierre allait reparaître, ou du moins une lettre viendrait sans tarder. Pierre, Pierre ! Elle l'appelait en se réveillant, elle l'avait appelé dans ses rêves. Ah, que c'était dur ! De vivre sans cette sollicitude qui l'avait enveloppée, sans cette présence, cet entretien, cette taquinerie, ce charme. Oui, ce charme la fascinait encore dans son souvenir. Un matin, comme elle refaisait ses longues nattes, elle les baisa parce qu'il les avait baisées. Et tout à coup, comme un éclair, une certitude la traversa, la paralysa. Il est mort! S'il vivait, il ne me laisserait pas dans cette affreuse situation. Tout au moins, il écrirait. Il m'enverrait mon acte de mariage. Tout le jour, elle vécut dans un deuil intérieur et elle regardait à son doigt les 2 anneaux qu'elle portait comme une veuve. Le lendemain, le doute, puis l'espoir, luttaient en elle contre les pensées funestes. Non, il vit, il reviendra. Je ne dois rien faire qui lui déplaise. Elle avait songé à chercher Pierre dans tous les bureaux de rédaction des journaux de Londres. Pendant ses courses errantes, elle avait découvert une librairie où l'on pouvait entrer pour consulter le bottin de la capitale. Il lui était loisible, qu'avait-elle à faire, de copier la liste d'une invraisemblable longueur des quotidiens avec leurs adresses. Mais à quels ennuis, à quels soupçons n'exposerait-elle pas Pierre Coombe de la part de ses collègues quand il rentrerait à son bureau pour apprendre qu'une jeune personne étrangère, effarée, le cherchait comme une épingle, se disant sa femme et ignorant tout de lui, son adresse personnelle, le nom du journal auquel il collaborait et sa résidence actuelle. Et puis, mon Dieu, de quoi aurait-elle l'air en faisant cette enquête ? D'une pauvre fille que Pierre Coombe aurait séduite et abandonnée. Et si elle affirmait « je suis mariée », il faudrait bien pour finir qu'elle montrât son acte de mariage. Même Galimard prendrait un air incrédule. De quel côté se tourner ? L'essentiel, à présent, le plus pressé, était de gagner un peu d'argent. Avec de l'argent, on paie une agence qui fait l'enquête discrètement, sans compromettre personne. Le projet d'aller elle-même chercher Pierre Coombe dans les rédactions était insensé, même dangereux pour lui. Avait-il commis une action coupable qui l'obligeait à se cacher ? Qui était-il en réalité ? Que savait-elle de lui ? S'appelait-il légitimement Pierre Coombe dans cette bizarre Angleterre où l'on peut changer de nom tous les 8 jours ? Du moins, Galimard l'avait affirmé. Thérèse songea tout à coup à s'adresser à la police, mais la même crainte la retint, celle de nuire à Pierre. D'ailleurs, ne l'avait-il pas prévenu que son absence pourrait durer quelque temps? Il avait des raisons, de bonnes raisons, si seulement elle pouvait les connaître. C'est ainsi que tous les jours, torturé d'incertitude, ligoté par son inexpérience et tiré à droite, à gauche, vers des résolutions contraires, elle se creusait douloureusement l'esprit pour y trouver une trace, un vestige révélateur. La tête dans les mains, accoudée sur sa petite table de sapin tachée d'encre et de café par de détestables locataires, Thérèse repassait dans sa mémoire tous les incidents, toutes les conversations, toutes les craintes, toutes les erreurs d'une orageuse période de 6 mois qui comptait pour elle plus que les insipides années de sa précédente vie. Quelques semaines dans la maison des miroirs, sa sotte raideur de jeune ignorante, ses querelles avec Julia, ses dégoûts qu'elle aurait dû supporter plutôt que de se trouver du jour au lendemain dans la rue, sans situation, sans certificat, mise à la porte pour avoir été trop intransigeante. Ah, cela non, elle ne pouvait le regretter sincèrement. Mais alors, dans la suite, que devait-elle se reprocher ? Elle n'avait quitté la pension Stephen que contrainte par la nécessité. Oui, elle aurait pu accepter la proposition de Gallimard et rester bien protégée dans un milieu correct où elle s'ennuyait. Avait-elle été coupable, ayant un diplôme d'enseignement, de chercher à donner des leçons plutôt que de masser des cuirs chevelus ? Le vrai était qu'elle avait suivi la flûte magique qui l'entraînait vers un logis rose et, depuis cette heure-là, tous ses gestes avaient été une abdication. Sa volonté n'avait plus été que l'aiguille de la boussole qui ne peut se détourner de l'aimant. Elle avait dit oui toutes les fois qu'elle aurait dû dire non. Maintenant, elle cherchait à analyser les actes et les intentions de Pierre Coombe dans leur fuyant repli, dans leur perpétuelle réticence. Il avait esquivé ses questions. Jamais le rideau ne s'était ouvert sur son passé, ni même sur son présent, avec une entière clarté. De quel côté qu'elle se tourna, elle rencontrait un brouillard d'épais mystères. L'affreux, l'insupportable soupçon lui venait que Pierre l'avait trompé savamment, perfidement, que même il avait compté sur une conquête plus facile. La scène du balcon lui revenait en mémoire, bien qu'elle s'en défendît. Mais comme il avait demandé pardon d'une minute de folie, elle le revoyait à genoux, elle entendait son plaidoyer haletant. Non, elle se devait à elle-même et à lui plus de justice. Ils n'étaient coupables ni l'un ni l'autre, ils avaient été imprudents. Ils avaient coupé trop tôt les amarres, et puis une catastrophe inimaginable emportait à la dérive la barque de Thérèse. Mais ce n'était pas un naufrage, on voguait de part et d'autre vers un port, tout proche sans doute, où l'on se retrouverait. La 4e semaine, Thérèse chercha dans le quartier les 3 boules d'or qui annoncent un bureau du Mont-de-Piété, que les Anglais appellent « chez ma tante ». Elle y porta d'abord son joli col de zibeline, sur lequel on lui prêta 10 shillings. Ensuite, elle mit en gage l'une des 2 alliances, la sienne. Elle aurait eu plus de peine à se séparer de celle de Pierre, où leurs initiales étaient gravées, tandis que l'autre ne portait aucun signe qui pût la faire reconnaître. L'anneau que Thérèse gardait à son doigt était trop large. Elle lui donna comme gardienne une petite tresse d'argent sans aucune valeur, un souvenir d'écolière qu'elle ne portait jamais auparavant. Dans son portefeuille, elle serra les reçus de gage avec la fatale lettre unique de Pierre. La 5e semaine, début d'octobre, elle se décida à entrer chez un brocanteur auquel elle offrit le nécessaire de toilette de Pierre, et puis, 8 jours après, la belle valise en veau et son contenu qu'elle avait emporté avec ses propres bagages. « Pierre ne saurait m'en vouloir, » se dit-elle. « Ces effets-là sont d'une absolue banalité, il pourra en trouver partout de pareil. Il ne saurait exiger tout de même que je meure de faim. » Comme elle n'avait aucune occupation et qu'elle économisait les pennies, elle faisait de longues courses à pied qui l'éreintaient. Elle s'asseyait pendant des heures sur le banc d'un pauvre square au gazon râpé, aux arbres malingres. La crainte morbide d'être rencontrée, d'être reconnue, l'empêchait de tourner ses pas vers les belles rues, vers les beaux parcs, où d'ailleurs les souvenirs des promenades heureuses l'auraient assaillie. Un jour, elle songea au bureau de placement dont elle avait souvent dérangé pour rien l'austère directrice. Sa guinée d'inscription était encore valable. Thérèse, avec étonnement, s'entendit assurer que la saison étant maintenant favorable aux engagements d'automne, il y avait des chances pour que beaucoup de jeunes personnes, pas trop difficiles, trouvassent à se placer. « Quitteriez-vous Londres ?»« Non, non !» répondit-elle précipitamment. Jamais elle ne renoncerait à son dernier espoir, la poste restante. Le lendemain, elle reçut une offre, pas très reluisante mais acceptable, dans un district du nord de Londres, agglomération modeste de petites villas, où vivent économiquement les fonctionnaires retraités, les employés des grandes brasseries, des grands marchés de bétail. Là aussi, des veuves honorables élèvent les enfants d'officiers que leur carrière retient aux Indes, ainsi que leurs femmes. Une de ces veuves, ayant besoin d'une jeune institutrice pour les 10 fillettes de son petit pensionnat, accueillit Thérèse avec approbation de son extérieur, de sa mise et de son diplôme.